Crying sur CFM et on retrouve Guillaume Gamblin.
Ouais, de la revue Silence. Le numéro 407 de décembre est paru. Et si j'ai bien compris, il est vraiment paru à la sueur et au sang de l'équipe rédactionnelle de la revue Silence, avec qui on a fait connaissance déjà un petit peu le mois dernier. Guillaume Gamblin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vivre sans Internet, puisque c'est ça, hein, c'était ça le challenge, c'était la réalisation d'un numéro de Silence sans utiliser Internet. Est-ce que ça a été quelque chose de possible et de facile pour vous ?
Alors, facile, sûrement pas. C'est vrai que ça a été toute une aventure dans laquelle on s'est lancé et qui nous a donné beaucoup de difficultés au quotidien, hein, qu'on a découvert au fur et à mesure, les relations avec nos partenaires, la communication entre nous, la recherche et la vérification des informations, et j'en passe et des meilleurs. Mais ça a été plus ou moins possible. Disons que nous n'avons renoncé à Internet que pour le côté rédaction, et tout le côté de la gestion de la revue a continué quand même, parce que c'était pas envisageable de s'arrêter à ce niveau-là.
Oui, il fallait quand même pas se mettre en danger.
Oui.
Alors, l'idée au départ, qu'est-ce que c'est exactement ? Pourquoi oui. Réaliser un numéro sans Internet ? Pourquoi ?
Alors, ça peut paraître un peu une idée folle. C'était une sorte de jeu qu'on a décidé, mais en même temps une expérience qui... Parce que bon, en tant que revue écologiste, nous avons un regard critique, y compris sur les technologies et sur leurs impacts. Et on avait déjà consacré un numéro il y a un an sur les impacts écologiques d'Internet, qui sont très importants. On essaye de démonter un peu ce discours qui veut nous faire croire que on peut produire sans consommer de matières premières ou d'énergie. L'économie immatérielle, je crois que c'est une illusion et que ça n'existe pas. Et donc, on voulait aussi expérimenter notre dépendance par rapport à Internet et voir jusqu'à où on pouvait aller. Tout simplement.
Voilà, et puis sachant que vous le dites aussi, c'est expliqué dans cette revue, c'est que Internet, au niveau de la consommation d'énergie et de l'empreinte que ça peut avoir sur la planète, c'est quelque chose qui devient énorme aujourd'hui.
Oui, Internet, c'est l'équivalent de très nombreuses centrales nucléaires. Google, à lui seul, consomme plus d'une centrale nucléaire. Les data centers, qu'on retrouve un petit peu partout, sont très consommateurs. Et puis, il faut ajouter à cela essentiellement la production de déchets, qui est très problématique. Et puis, la raréfaction des matériaux, et notamment le lithium pour les batteries, qui sera sans doute épuisé d'ici la prochaine décennie. Donc il ne s'agit pas d'avoir un discours complètement binaire sur Internet, mais de dire qu'il y a aussi des limites écologiques.
Alors, donc, il y a un papier qui retrace un petit peu de façon un peu factuelle comme ça, votre réunion de rédaction quand vous avez pris la décision de faire cette revue. Est-ce que tout le monde était d'accord? Visiblement, il y en a quand même qui ça gênait un petit peu aux entournures, hein, de faire ça.
Ben oui, c'est sûr que ça a soulevé des craintes, des peurs, des questionnements. Et c'est aussi un petit peu de cette expérience qu'on a voulu rendre compte, parce que je pense que ça pouvait d'autres personnes peuvent se retrouver. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passerait le jour où, pour une raison de crise énergétique, par exemple, on devait se passer d'Internet? Quel problème concret ça soulèverait? Et là, on découvre que ça soulève des problèmes de tous les côtés, quoi, hein, au niveau de comment se diffuser, comment se faire connaître. Communiquer, etc., etc.
Moi, j'ai bien aimé le point de vue qui était énoncé quelque part. Je retrouve pas la note là, mais
oui.
Où c'était une dictature écologique arrive au pouvoir et on interdit Internet.
Oui, c'était parmi les hypothèses. Pourquoi il pourrait ne plus y avoir Internet? Alors, on s'est dit vu que, enfin voilà, ça pourrait être une des possibilités qu'on ne souhaite évidemment pas et qui était juste une petite.
La grosse difficulté pour le travail journalistique, évidemment, c'est de recouper les informations. Ça va tellement plus vite de s'informer et de recouper les informations quand on a Internet, ne serait-ce que pour avoir les coordonnées des bonnes personnes à appeler. Parce que là, vous vous êtes retrouvé à aller consulter les pages jaunes des bottins en papier, quoi. Hein.
Quasiment. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, quand on veut vérifier une information, on passe par Internet. Sans faire un numéro sans passer par Internet, ça a été un numéro où les informations seront peut-être un peu plus fragiles au niveau de leur fiabilité qu'un autre numéro, parce que effectivement, on a eu du mal à aller vérifier. Et quand bien même on va téléphoner à un expert sur un sujet, le nucléaire par exemple, qu'on connaît, eh bien lui, il va sans doute regarder sur Internet pour aller vérifier son information.
Et oui, donc même si vous voulez pas utiliser Internet, le rebond, la deuxième personne, oui, elle l'utilise. Bon, alors à part tout ça, on retrouve quand même des vrais sujets, des vrais dossiers. Vous vous intéressez au Café Citoyen de Lyon, toujours à Lyon.
De Lille.
Oui, oui, et à Lyon, c'est les ateliers Cobois.
Tout à fait.
Ouais.
Effectivement, nous, notre projet, c'est quand même de montrer que les alternatives qui existent dans tous les domaines. Donc, le Café Citoyen, c'est une expérience intéressante de personnes qui ont monté un café très actif et autogéré. Et Cobois, c'est une expérience de partage de machines-outils de bois à des adhérents qui permet à de nombreuses personnes de pouvoir fabriquer quelque chose de manière coopérative.
On marque une courte pause de musique ou de pub, je sais pas, c'est quoi, c'est pub ou rien?
Voilà. C'est pub.
Un petit peu de pub et puis je te reprends juste après.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, 17h30, 19h, à qui le tour? La vie des pays.
Moi, malgré un budget serré, j'ai la solution pour varier mes plaisirs. Le guide Pastime. Exceptionnel dans le département, le guide Pastime dépasse tout ce que j'ai imaginé. Je sors plus, je dépense moins. Je profite de réductions jusqu'à moins 50% dans une large sélection de restaurants, de loisirs et de commerces. Avec le guide Pastime, je redécouvre le plaisir de sortir. Retrouvez-moi sur www.pastime.eu.
CFM. La pop, le rock. CFM.
Lettres d'automne s'arrête à Molière le mardi 27 novembre pour une lecture musicale de et par Jean-Claude Mourleva, accompagné de la violoncelliste Marie-Madeleine Mill, en présence de Jeanne Benhammer, invitée d'honneur du festival littéraire Lettres d'automne. Animations libres et gratuites à 20h30, salle de la Pyramide. Renseignements, communauté commune Quercy-Caussadet, 05 63 93 28 66.
Au marché de Noël de Lozère, dimanche 2 décembre, vous trouverez tous les ingrédients pour concocter de joyeuses fêtes de fin d'année généreuses et savoureuses. De nombreux exposants proposeront cadeaux, objets déco, jouets, produits gastronomiques, artisanat, bijoux et l'indispensable sapin. Rencontres et photos avec le Père Noël, maquillage, grimages improvisés et autres animations gratuites pour petits et grands sont au programme du marché de Noël de Lozère, dimanche 2 décembre de 9h à 18h. Restauration possible sur place, renseignements à l'office de tourisme de Lozère.
Avant les fêtes, la ville de Montauban vous donne rendez-vous le samedi 1er décembre pour participer à la grande bourse aux jouets à la Maison du Peuple. Courez dans vos greniers pour y retrouver jeux et jouets délaissés et venez les vendre dans le cadre de ce vide-grenier exclusivement réservé aux jouets d'occasion. Pour vous inscrire, retrouvez toutes les informations sur www.montauban.com, rubrique bourse aux jouets.
Montauban, le goût de l'avenir.
CFM.
CFM.
En direct du Faubourg La Capelle. 101.2.
L'esprit rock.
Alors, toujours avec Guillaume Gamblin de la revue Silence, revue mensuelle écologique alternative non-violence. Cette revue qui a été réalisée par toute son équipe sans internet pour ce numéro. 4,60€ ça coûte et c'est distribué dans tous les bons kiosques. Comment ça marche au niveau de la distribution déjà, Silence?
Oui, alors on n'est pas dans tous les kiosques à journaux, mais on a environ 200 lieux de diffusion dans toute la France, et donc il y en a aussi dans votre département.
Bon, par exemple ici, chez nous, c'est Biosol et Base Bio, par exemple, on doit vous trouver à cet endroit-là.
Voilà, oui, ouais.
Il y a un papier sur les reposeurs.
Oui.
On a des déboulonneurs, nous, ici, dans notre région en Midi-Pyrénées, qui réalisent très, très régulièrement, au rythme d'une fois tous les deux mois à peu près, des actions comme ça de recouvrement de panneaux publicitaires 4x3 qui sont la plupart du temps, qui ont été illégalement posés. Oui. Et là, c'est le même genre d'action, mais dans le métro parisien.
Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, parmi les reposeurs, on retrouve un certain nombre de personnes qui ont fait partie du collectif des déboulonneurs de publicité. Et ils ont voulu mener une action un peu plus spécifique au métro parisien, qui est vraiment le comble en termes d'envahissement publicitaire et de gigantisme. Et simplement, en prenant un petit peu moins de risques juridiques et en faisant une action dans des conditions plus sereines, ils vont simplement apposer des affiches sur les publicités géantes qui peuvent être ensuite retirées par la sécurité ou par les publicitaires s'ils le souhaitent, sans dégradation. Donc il n'y a pas de danger pour les activistes, mais ça a quand même un effet assez impressionnant pour les passants qui emploient le métro.
Voilà le genre de pub ou de panneaux d'écriteaux qu'on peut retrouver dans le métro en ce moment, c'est « Vive l'action non violente » ou encore « Pub égale manipulation ».
Oui.
J'imagine que ça doit bien énerver les annonceurs, effectivement.
Je crois aussi, oui. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce type d'action dans le métro parisien, car ils m'ont l'air très motivés.
Un article sur un gars qui fait un retour à la Terre, Roger oui. Gavinelli.
Tout à fait. Parce que ça nous semble aussi important de montrer des démarches et de comprendre un peu des parcours de personnes qui en arrivent à changer de vie et à se mettre à cultiver dans un esprit d'écologie, hein, là d'agroforesterie en l'occurrence, avec la plantation de figuiers dans le Gard. Et donc voilà, on peut avoir un petit peu un parcours individuel.
Et j'aime bien parce que quand c'est comme ça, je vais pas tout lire, mais je lis juste le début qui donne vraiment très envie de lire la suite. Quand je suis parti à la retraite à 60 ans, nous dit donc Roger Gavinelli, en 90, je souhaitais acheter une châtaigneraie car j'adore les châtaignes. Mais avec mon accent de la banlieue parisienne en pays cévenol, ça ne faisait pas sérieux. Personne ne voulait me vendre une parcelle.
Mais oui, c'est mieux. Et puis il a fini par se convertir dans le figuier parce que c'est voilà, enfin c'est tout un cheminement.
Voilà, ça et tant d'autres choses à lire dans le magazine Silence de décembre numéro 407. Merci d'avoir été avec nous pour l'effeuiller un petit peu sur l'antenne de CFM, Guillaume Gamblin.
Merci à vous.
Vous avez repris internet, tout va bien, les mails ça va?
Ça va, c'est beaucoup plus facile, on va s'y remettre.
Allez, à la prochaine, au revoir.
À la prochaine, au revoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, 17h30, 19h, à Kiltour, la vie des pays.